Terre, le magazine de l'environnement. On s'intéresse ce matin à un traité qui, s'il est signé, mettra à mal les quelques normes sociales et environnementales qu'on a réussi à arracher aux autorités européennes. Raoul Marc-Génard, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à chaque fois qu'on se rencontre, vous et moi, c'est pour parler de choses qui sont entourées d'un voile et d'une discrétion tout à fait extraordinaire. Il y a quelques années, c'est vous qui nous aviez aidé à décrypter l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et puis plus particulièrement l'AGCS, l'Accord Général sur le Commerce des Services. C'était au tout début des années 2000. Aujourd'hui, vous avez lu pour nous, et vous allez nous expliquer, un traité qui, lui aussi, si je ne m'abuse, a été traité avec une très grande discrétion. C'est le traité pour un partenariat sur le commerce et l'industrie qui serait négocié en ce moment entre l'Union européenne et les États-Unis. Alors, discrétion ?
Ah, tout à fait. Parce que ce qui est largement passé inaperçu, j'ai envie de dire largement tenu sous silence par les médias, c'est le 14 juin 2013, le Conseil des ministres européens, donc aujourd'hui 28 États membres, 28 gouvernements, qui donnent un mandat à la Commission européenne pour négocier avec les États-Unis ce qui s'appelle très officiellement un partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. C'est, on va y sans doute y revenir, bien plus qu'un accord de libre-échange, et c'est surtout, comme le mandat le précise, une mise à jour, et j'ai envie de dire une amplification, des accords de l'OMC, et en particulier de l'accord général sur le commerce des services, de l'AGCS, mais pas seulement. Mais pas seulement. En fait, quand on lit les 46 articles du mandat conféré par nos gouvernements à la Commission européenne, on pourrait presque lire la table des matières des accords de l'OMC, puisqu'on y retrouve l'accès au marché, l'accord général sur le commerce des services, les droits de propriété intellectuelle, et déjà, dans le détail, ce qu'on appelle à l'OMC les accords annexes, donc les différents accords que l'accès au marché a suscité dans le cadre de l'OMC, ou que la GCS a suscité, on retrouve tous ces éléments-là dans les 46 articles du mandat pour ce grand marché transatlantique États-Unis-Union européenne. Avec un élément supplémentaire, qui est, pourrait faire aussi l'objet d'un anniversaire, c'est quelque chose qui se résumait en trois lettres, AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement, négocié dans le plus grand secret, y compris par la France, de la gauche plurielle, et qui, une fois mis en lumière, grâce à des fuites, mais c'est le même processus que nous observons aujourd'hui, c'est grâce à des fuites qu'on peut se rendre compte de ce qui se prépare, et cet AMI, qui une fois mis en lumière, était devenu tellement inacceptable que le gouvernement de M. Jospin, donc qui le négociait jusque-là dans le plus grand secret, a été obligé en 1998 à retirer la France de la négociation. L'AMI est de retour dans le projet de partenariat transatlantique.
Pourquoi est-ce que c'est si important de garder le secret sur ces accords qui ont l'air de concerner simplement des transactions, du négoce ?
Et ça fait un bout de temps et c'était pas du tout inutile de rappeler l'Organisation mondiale du commerce que le mot commerce veut dire bien davantage que ce qu'il est convenu d'entendre par ce mot-là, c'est-à-dire l'achat et la vente de biens, de marchandises. On dissimule derrière ce mot ce que je n'hésite pas à appeler des choix de société. Et même aujourd'hui, avec le grand marché transatlantique, des conflits de valeurs. Parce que, en fait, quand on fait référence à l'idée de commerce, on fait référence à des activités qui touchent tous les aspects de la vie. On peut dire que les accords de l'OMC touchent tous les aspects de la vie. Et pas seulement le fait de vendre ou d'acheter des biens, mais aussi toutes les activités de service, et on sait que les activités de service, on y fait appel dès l'instant où on s'éveille en éclairant sa chambre, jusqu'au moment où on s'endort en mettant fin à l'éclairage de sa chambre. Et on peut refaire le fil des activités de toute une journée, prendre le bus, le tram, le train, conduire ses enfants à l'école, ouvrir le robinet quand on entre dans la salle de bain, faire appel donc à la distribution d'eau. Tout ça, ce sont des activités de service. Or, à partir du moment où on soumet les activités de service aux règles de la concurrence, parce que derrière le mot commerce, ce qui est important, le mot commerce resterait anodin si les exigences de la concurrence, dont on a dit à juste titre lorsque l'on débattait en 2005 du traité constitutionnel européen qu'elle était libre et non faussée, puisque c'était l'expression du texte même, et qu'elle demeure cette exigence d'une concurrence qui est libre, c'est-à-dire qui ne connaît aucune entrave, aucun obstacle, et le mot obstacle est aussi dans les accords de l'OMC, et qui ne peut pas être faussée. Et faussée, ce n'est pas seulement ce que les techniciens appellent des distorsions de concurrence. Faussée, c'est par des protections qui concernent, par exemple, la qualité de la vie, l'environnement, la santé, la protection de la santé.
La protection du travail, les droits du travailleur.
Les normes sociales. En fait, tout ce que, dans une société organisée, au fil du temps, pour faire prévaloir l'intérêt général, le bien commun, on a élaboré comme loi,
comme règle du jeu,
comme règlement, oui, comme norme. On se rend compte qu'une société organisée, c'est-à-dire autre chose qu'un simplement une addition d'individus, c'est un empilement de normes, de choix sur la manière de vivre ensemble. Et c'est à ce moment-là de la réflexion qu'il faut se rappeler que les néolibéraux, et en particulier Margaret Thatcher, disaient « il n'y a pas de société ». Parce que la négation de la société, la mise en valeur de l'individu au mépris de la nécessité d'inscrire cet individu dans une collectivité, c'est véritablement la doctrine libérale, il faut en parler, puisqu'en fait, le partenariat transatlantique, ce grand marché que l'on veut construire, s'inscrit, mais alors avec des accents extrêmement aigus et très poussés, dans cette philosophie néolibérale qui nie la société, et donc qui nie que la société soit légitime quand elle élabore, quand elle adopte, quand elle protège des normes. Des normes en fonction de valeurs qui inscrivent un vouloir vivre en commun. C'est de ça dont il s'agit. Bien plus que de commerce, bien plus que d'investissement, nous sommes, avec ce projet, en face d'un énorme conflit de valeurs. Et ce n'est pas par hasard que dans le préambule de ce projet de traité, il est dit que cela se fera au nom de valeurs qui seraient communes aux États-Unis et à l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont repris les parlementaires européens dans leur majorité lorsque, en mai de l'an passé, ils votaient, avant même de connaître le mandat, une résolution soutenant ces négociations, soutenant le principe même de cette négociation.
Avant même de connaître le contenu.
Avant même que le contenu du mandat ait été adopté. En mai, le Parlement européen a adopté une résolution en faveur de cette négociation, alors que c'est le 14 juin que le Conseil des ministres européens adoptait le mandat. Mais au nom de valeurs communes.
Mais qu'est-ce que c'est que ces valeurs communes aux États-Unis et à l'Europe, Raoul Marchena ?
Mais moi, je conteste, je ne nie pas que les États-Unis et les peuples d'Europe partagent quelques idées générales qui leur sont communes sur les libertés fondamentales. Quand même, les pères fondateurs des États-Unis étaient inspirés par les philosophes des Lumières. Et là où nous divergeons, c'est sur la manière de les mettre en œuvre. Quand j'ai lu la résolution du Parlement européen et puis le mandat donné par nos gouvernements à la Commission pour négocier et que j'ai vu cette référence insistante à des valeurs communes, je me suis interrogé parce que quand même, sur la conception de l'État, nous n'avons pas du tout la même valeur. Aux États-Unis, l'État n'est pas le gardien du bien commun, de l'intérêt général. La protection de l'intérêt général et les laisser aux citoyens quand ils décident de se rassembler pour faire face à un problème. Alors ils s'organisent et c'est pour ça que les associations, les lobbies ont connu et connaissent une vie beaucoup plus abondante aux États-Unis, parce que dès l'instant où l'intérêt général est mis en péril par les activités, par exemple, d'une firme privée qui pollue son environnement, eh bien, ce n'est pas l'État qui agit, ce sont les citoyens qui sont tenus de se mobiliser, de se rassembler, de rassembler des fonds pour faire appel à des cabinets d'avocats, et puis tout cela se passe devant la justice. Chez nous, nous considérons, et c'est la conception de l'État issue des philosophes des Lumières, et en particulier de la Révolution française, que l'État est le gardien. Conséquence, mais chez nous, on a mis en place, et ce n'est pas une exception française, contrairement à ce que certains disent de manière erronée, on a mis en place des services publics. Parce que si l'on considère que l'accès de tous aux soins en matière de santé, que l'accès de tous à l'éducation, ce sont des droits fondamentaux, eh bien les outils pour les mettre en œuvre, ce sont les services publics. Et il en va de même pour la sécurité sociale. Mais regardons la peine, que les difficultés que rencontre ce pauvre monsieur Obama pour mettre en œuvre un système de sécurité sociale pour lequel il a quand même dû faire un cadeau de 30 milliards de dollars aux assurances privées et que ça ne concernera pas encore la totalité de ceux qui ne peuvent pas se payer eux-mêmes des soins de santé de qualité. On voit là une différence dans le concret, une différence de valeur. Je ne parlerai même pas du rapport à la religion où aux États-Unis il est omniprésent, mais par exemple, et ça concerne directement ce projet de grand marché, par rapport aux normes sociales. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, existe une institution internationale qui s'appelle l'OIT, l'Organisation internationale du travail, au sein de laquelle État, patrons et syndicats ont négocié et adopté des conventions sociales. On connaît les fameuses conventions sociales de base de l'OIT. Les pays européens les ont toutes ratifiées. Les États-Unis n'en ont ratifié aucune. Ce qui nous fait quand même une sérieuse différence. Parlons d'environnement. On sait que Kyoto ou la convention de Rio sur la biodiversité n'ont pas été ratifiés par les États-Unis, alors qu'ils l'ont été par les pays européens. Aux États-Unis, on considère qu'un citoyen américain, quels que soient les crimes qu'il ait pu commettre, ne peut être jugé que par des tribunaux américains. Du coup, les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention internationale sur les droits de l'enfant, parce qu'un pédophile américain ne peut être jugé qu'aux États-Unis, et ils n'ont pas ratifié la Convention, le traité de Rome, sur qui crée la Convention pénale internationale, parce qu'un génocidaire américain, même s'il a sévi en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine, ne peut être jugé qu'aux États-Unis. Et on pourrait continuer la liste sur toute une série de domaines qui sont abordés par ce projet de grand marché transatlantique, par exemple, la culture, il faut quand même qu'on en dise un mot, même si les cocoricos du gouvernement laissent entendre qu'elle serait à l'abri de la négociation, ce qui est complètement faux. Bien, nous avons ratifié la convention de l'UNESCO sur la protection, le respect de la diversité culturelle. Les États-Unis ne l'ont pas fait.
On va revenir, Raoul Marc Génard, sur ce fameux partenariat, ce traité, parce que vous l'avez lu et décortiqué et que vous allez nous en révéler les méandres les plus obscurs et les plus sombres, parce que c'est vraiment des choses très inquiétantes qui se profilent. Mais je voudrais tout de même qu'on fasse un retour en arrière. Si on a évoqué tout à l'heure l'OMC et la GCS, c'est que j'aimerais que vous nous rappeliez peut-être ce qui, à l'époque, était encore présenté comme des menaces qui pesaient sur nous, et dont il me semble qu'aujourd'hui, on peut dire que ces menaces se sont réalisées, la plupart d'entre elles. Et ce qui est le plus curieux, c'est que dans le même temps, on a cessé, comme je le disais tout à l'heure, de parler de l'OMC et de la GCS. Alors, est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur ces années ?
En fait, il faut bien se rappeler que les accords de l'OMC, qui sont adoptés à Marrakech en 1994, sont signés pour les pays de ce qui s'appelle aujourd'hui l'Union européenne par, à l'époque, la Communauté européenne. Et depuis, donc, est ratifié, j'insiste, par les États membres. Et donc, pour la France, ce fut fait en décembre 1994. Et ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995. De même que l'OMC, en tant qu'institution gardienne de ces accords, s'est mise au travail dès janvier 1995.
Juste une petite précision, Raoul Marc Génard, ratifié par les États, pas par les parlements de chaque pays.
Si. Ça a été ratifié en 48 heures par l'Assemblée nationale à Paris, en décembre, je ne me souviens plus de la date, mais c'est en décembre, ça a été ratifié par les parlements. Oui. L'article 53 de la Constitution de la Ve République dit que les traités de commerce doivent être ratifiés. Je me permets d'en parler parce que aujourd'hui, pour ce futur traité Union européenne-USA de grand marché transatlantique, d'aucuns disent que la France ne devrait pas le ratifier, que seul le Parlement européen serait habilité à le ratifier. Et je rappelle donc, dans la Constitution de la République française, il y a une obligation de passer devant le Parlement pour ratifier un traité de commerce. Alors, revenons donc. 1995, les accords de l'OMC entrent en application. Qui est le gardien de ces accords pour nous, pays européens ? La Commission européenne, puisque c'est elle qui les a signés en notre nom, évidemment forte du fait que les États membres, à travers leur représentation nationale, les ont ratifiés. On ne parle plus de l'OMC, mais nous subissons depuis lors les initiatives de la Commission, qui vont toutes dans ce sens-là. Je rappelle qu'en vertu des traités européens, seule la Commission peut proposer. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le monopole de l'initiative de la Commission. En fait, le système est le suivant. La Commission européenne propose, le Conseil des ministres européens, donc la réunion aujourd'hui de 28 gouvernements, décide, et la Commission applique. Donc, la Commission européenne, qui en plus, à travers les personnages qui la composent, adhère pleinement, je vais même dire avec zèle, à l'idéologie sous-jacente des accords de l'OMC, qui est l'idéologie néolibérale, qui fait la confiance la plus totale à la main invisible du marché, au laisser-faire, laisser-passer du 19e siècle. On est revenu là, hein. Mais donc, cette Commission européenne va s'empresser, à travers ses propositions de directives, à travers ses propositions de règlements, de mettre en œuvre les accords de l'OMC. Pour prendre un exemple d'une actualité très récente, une des dernières recommandations de la Commission européenne au gouvernement français pour les questions budgétaires, c'était d'accélérer la libéralisation du transport ferroviaire de passagers, c'est-à-dire la libéralisation des transports c'est un élément de la GCS.
Libéralisation, ça veut dire privatisation.
Alors, la libéralisation ne veut pas automatiquement dire privatisation. La libéralisation veut dire mise en concurrence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà dans le fret, on voit des transporteurs privés sur le réseau ferré de France. Un réseau ferré de France qui a quand même été créé avec l'argent du contribuable, mais qui aujourd'hui, le rail français, supporte des locomotives et des wagons de firmes privées. Et demain, puisque la Commission européenne presse le gouvernement français d'aller plus loin, aussi des wagons qui transporteront des passagers, des wagons privés. Seulement, dans la GCS, il y a une disposition qui s'appelle le principe du traitement national. Et je ne vais pas entrer dans la technicité de ce principe qui est assez complexe, mais qui est un mécanisme qui fait en sorte que la généralisation des principes de l'OMC fait que l'on passe de la libéralisation à la privatisation. Parce qu'à partir du moment où les pouvoirs publics doivent accorder au secteur privé ce qu'ils accordent à leurs propres activités de service, c'est ça le traitement national, et ils ne peuvent pas le faire, les moyens ne sont pas là. Donc ils privatisent.
Depuis... Un exemple que vous pourriez donner, que vous donnez assez volontiers, je le trouve très clair, c'est ce qui concerne l'éducation, par exemple.
Mais oui, par exemple, en matière d'éducation, dès l'instant où l'on décide que la GCS s'applique à l'enseignement universitaire, par exemple, eh bien, ce que la France consacre financièrement pour faire fonctionner ses universités, pour les salaires des enseignants, pour l'entretien des bâtiments, la construction de nouveaux bâtiments, dès l'instant où le principe du traitement national est appliqué à l'enseignement universitaire, bien la France devrait l'accorder à, par exemple, une section à Paris de l'université d'Harvard qui viendrait s'installer à Paris et qui serait en droit, en vertu de ce principe, de demander au gouvernement français exactement le même niveau d'intervention financière que le gouvernement français accorde pour la Sorbonne. On peut le faire pour un cas, mais si on généralise le principe, on ne peut plus le faire. Et donc on privatise ses propres institutions sous peine d'être traduit devant le tribunal de l'OMC et d'avoir à payer des compensations, mais qui se chiffrent en centaines de millions de dollars, ce qu'on ne peut pas faire non plus. Donc on est contraint de modifier ses propres législations, ses propres réglementations.
C'est la même chose pour les transports, la même chose pour la santé.
Alors, bon, en matière de services, à l'OMC, on a une nomenclature. On a distingué 12 secteurs de services dans lesquels on retrouve les services financiers, donc les banques, les assurances, l'éducation, les transports, la santé. Enfin, on en a 11 qui sont nommément désignés, et puis un 12e qui est très caractéristique du souci qu'ont eu les auteurs des accords de l'OMC de ne rien oublier, un 12e qui s'appelle divers. Et derrière ces 12 secteurs, dont les divers, il y a 160 sous-secteurs. Ça veut dire que toutes les activités de services sont couvertes. D'ailleurs, la définition des services à l'article 1 de la GCS, c'est tous les services de tous les secteurs. On n'oublie rien. Ce qui veut donc dire que quand on parle de services, on touche toutes les activités humaines. Et donc, depuis la signature des accords de l'OMC et leur ratification, la Commission européenne, notamment au début présidée par Jacques Delors, au début de cette période où c'est la Commission qui devient la force de proposition pour la mise en œuvre des accords de l'OMC, depuis lors, eh bien, on ne parle plus de l'OMC. Et on a le sentiment donc que ces idées-là de libéralisation, de mise en concurrence, ce sont des idées européennes. Ce sont certes des idées européennes dans la mesure où les États européens ont ratifié les accords. Mais ce sont des idées qui sont nées dans la négociation qui a abouti à la création de l'OMC. Aujourd'hui, celui qui met en œuvre, si je peux le dire, c'est la Commission européenne.
Et surtout, voilà, c'est ça, Raoul Marchena, c'est que ce ne sont pas des idées, ce sont des faits, ce sont des obligations.
Mais je veux dire, j'ai utilisé à dessein le mot idée parce qu'on est dans l'idéologie. On est dans une idéologie qui vise à transformer nos sociétés de telle sorte que le souverain maître, ce soit le secteur privé. Et là, avec le grand marché transatlantique, on franchit une énorme étape.
D'accord, mais tout de même, je voulais insister, Raoul Marchena, ça me paraît important, sur le fait que toutes ces choses-là sont déjà en œuvre et en action. C'est sur le fait que cette espèce de démantèlement tous azimuts que nous vivons depuis des années dans une sorte de perplexité et d'incompréhension, ce sont des choses qui ont été actées, effectivement, par les gouvernements, par les parlements, par la Commission européenne, et ce sont des choses qui sont inscrites dans un agenda et dans des décisions qui nous dépassent, nous, qui n'avons pas été tellement consultés, nous, sociétés.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il m'arrive, lorsque je fais des conférences sur le grand marché transatlantique, au moment du débat, des gens me disent mais on est déjà dedans. On est partiellement dedans. On n'est pas encore totalement. Fort heureusement, par exemple, eh bien, la GCS ne s'applique pas encore complètement aux universités. Et certainement pas encore aux lycées et aux écoles primaires. Et il y a encore des secteurs qui échappent à la GCS aujourd'hui parce que la mécanique de la GCS veut qu'il y ait une démarche d'engagement. L'étape suivante, c'est le grand marché transatlantique. Parce que il y a des articles très précis dans le mandat qui veulent que, précisément, et il est fait explicitement référence à la GCS, on aille vers une application complète. En fait, le grand marché transatlantique, on pourrait le résumer comme ceci, c'est considérer qu'on n'a pas encore été assez loin et assez complètement dans l'application des accords de l'OMC et qu'on en donne un sacré coup d'accélérateur pour les appliquer complètement et aller au-delà, comme le dit le texte. Je cite le texte avec un haut niveau d'ambition d'aller au-delà des accords de l'OMC. Fin de citation. Donc c'est ça. On en connaît déjà des éléments. On voit déjà toutes les tentatives de marchandiser l'eau, l'énergie, les ressources naturelles, de marchandiser les activités de service. C'est en cours. Ce n'est pas encore complet. On pourrait toujours espérer un stop et peut-être revenir en arrière dans des domaines où quand même des droits fondamentaux sont en cause. Que du contraire, avec le grand marché transatlantique, on veut achever le travail et on veut même aller encore plus loin, si plus loin est possible. Mais oui, plus loin est possible, parce qu'il s'agit de mettre en œuvre ce qui était l'espérance formulée par David Rockefeller dans une interview le 1er février 1999 à Newsweek, transférer le gouvernement des peuples au secteur privé. Et c'est de ça dont il s'agit. Avec le grand marché transatlantique, il s'agit d'une part d'achever l'application intégrale, complète des accords de l'OMC dans le domaine de l'accès au marché, dans le domaine des services, dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, mais aussi transférer la définition de la norme au secteur privé.
Vous parliez d'idéologie, Raoul Marchena, on est en plein dedans, effectivement, c'est une idéologie très puissante qui s'exprime là. Et d'ailleurs, vous avez relevé les propos tenus par une collaboratrice de Nicole Bric, ministre du Commerce et fugace ministre de l'Environnement.
Oui, dans une note que cette collaboratrice rédige pour sa ministre avant la fameuse réunion du 14 juin, donc la réunion où la France donne son feu vert à la négociation, cette collaboratrice dit qu'il faut prendre acte de la tendance à déléguer la définition de la norme au secteur privé. Voilà donc le degré de résistance qu'offre l'actuel gouvernement français à cette dérive qui va avoir des conséquences énormes. Parce que la définition de la norme, depuis 1789, c'est à la représentation nationale qu'elle appartient au premier chef. Et en tout cas, à des institutions issues d'un processus démocratique. Quel que soit le débat qu'on puisse avoir par ailleurs, et qui est légitime et nécessaire, sur l'état de notre démocratie. Mais quand même, encore aujourd'hui, c'est à l'Assemblée nationale que se fait la loi, c'est dans les cours et tribunaux qu'elle est interprétée et que l'on juge en fonction de la loi, ce n'est pas, pour l'essentiel, dans des enceintes qui échappent au contrôle public. Ce n'est pas encore, à une exception fort connue depuis peu, l'affaire Tapie, et ce n'est pas dans des structures d'arbitrage privées que l'on décide d'un conflit, que l'on décide de la manière dont il convient d'appliquer une règle. Or, à trois reprises, dans le projet de négociation, donc dans le mandat, et là je souligne, dans ce que les gouvernements, et en particulier le gouvernement français, demandent à la Commission de négocier avec les États-Unis, il est dit qu'en cas de conflit sur une norme, sur un règlement, sur une loi, entre une firme privée et le pouvoir public en cause, État, région, département, commune, on aura recours à ce qui s'appelle un mécanisme de règlement des différends, c'est-à-dire une structure d'arbitrage privée.
Donnez-nous un exemple.
Le projet de mandat lui-même donne des exemples. D'abord, le premier article qui en parle, c'est lorsqu'il y a un conflit entre un investisseur et des pouvoirs publics. Un investisseur peut considérer que une législation qui oblige un investisseur à respecter des normes sociales, la durée du temps de travail, l'obligation d'avoir un comité de sécurité et d'hygiène, un conseil d'entreprise, tout ce qui est le fruit de conquêtes sociales. Rien ne dit aujourd'hui dans le texte que ce qui est le résultat d'avancées sociales protégeant les femmes et les hommes qui travaillent dans une entreprise ne pourra pas être remis en question par un investisseur, en l'occurrence américain. Mais bon, le MEDEF n'est pas du tout hostile à cette négociation, donc on pourrait dire que le MEDEF est d'une manière générale Europe Business, donc le MEDEF européen, soutiennent cette négociation pour obtenir via la négociation d'un grand marché transatlantique ce qu'ils ne peuvent pas obtenir directement dans le dialogue dans l'enceinte nationale ou dans l'enceinte européenne. Bien voilà, un exemple concret, mais il y a aussi un article qui évoque spécifiquement les normes sociales et les normes environnementales et où il est indiqué tout à la fin de l'article qu'il y aura aussi possibilité de recours à un mécanisme de règlement des différends. Et enfin, il y a le dernier article qui en traite, c'est l'article 43, qui, sans préciser à quelle matière ça s'appliquerait, prévoit pour tout le sujet un mécanisme de règlement des différends. Alors, c'est quoi un mécanisme de règlement des différends ? Eh bien, c'est justement l'instrument par lequel on transfère, on délègue la définition de la norme au secteur privé. Parce que, au lieu d'avoir recours à nos juridictions ou à nos institutions, on crée au cas par cas un groupe d'arbitrage privé qui délibère dans le secret, dont les décisions sont sans appel, et nous avons des exemples parce que cela existe ailleurs. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais prendre un exemple très concret de ce qui n'existera plus, de ce qui ne sera plus possible si cet accord aboutit. Il y a quelques mois, un avocat français, au nom d'une firme pétrolière américaine, a introduit ce qu'on appelle dans notre droit une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, comme on dit dans le jargon. C'était donc une question adressée au Conseil constitutionnel. La question était, est-ce que la loi qui a interdit la prospection de gaz de schiste est conforme à la Constitution ? On connaît la réponse, le Conseil constitutionnel a répondu que la loi était conforme. Si le fameux partenariat transatlantique est adopté dans les termes du mandat donné par nos gouvernements, eh bien, le Conseil constitutionnel ne sera plus l'instance consultée. On mettra en place un groupe d'arbitrage qui décidera. Autrement dit, on enlève à nos institutions et à nos juridictions un pouvoir qui s'exerce aujourd'hui dès lors qu'une firme privée est en cause.
Vous dites que ces instances d'arbitrage privé existent déjà, Raoul Marxena. Comment est-ce qu'elles fonctionnent et qui trouve-t-on ?
Alors, il y en a une à l'OMC. Il y a ce qu'on appelle...
C'est l'organe de règlement des différends, l'ORD.
L'ORD, c'est l'organe de règlement des différends qui connaît une instance d'appel, qui est un mécanisme dont l'Union européenne a déjà eu à pâtir, puisque attaqué par les États-Unis pour l'interdiction de l'importation de bœuf traité aux hormones de croissance, les États-Unis, considérant que cette interdiction n'est pas fondée scientifiquement, donc a introduit une action devant l'organe de règlement des différends de l'OMC, et comme les critères de santé publique n'entrent pas en ligne de compte dans les règles de la concurrence, et donc sont considérés comme des obstacles à la concurrence, l'Union européenne a perdu et elle a dû donner des centaines de millions de dollars aux États-Unis. Mais il ne faut pas confondre l'ORD, où il y a une instance d'appel, où se trouve d'ailleurs au niveau de l'appel des magistrats, avec ce qui est entendu dans le mandat de négociation pour le grand marché transatlantique sous l'expression mécanisme de règlement des différends. La référence, c'est le mécanisme de règlement des différends qui est en fonction depuis 20 ans. On a fêté le 1er janvier l'anniversaire dans le cadre de l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord, l'ALENA, entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Là, il n'y a pas d'instance d'appel. Les groupes d'arbitrage sont constitués de personnes privées qui délibèrent à huis clos sans qu'il y ait, ce qui est une des caractéristiques de toute procédure judiciaire équitable, de débat contradictoire. Et qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que dans les 30 affaires où une firme privée américaine a attaqué le Canada, 30 fois, le Canada a perdu. Par contre, dans la quinzaine de cas où des firmes privées canadiennes et mexicaines ont attaqué les États-Unis, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, dans tous ces cas-là, elles ont perdu. Ce qui veut dire que on ne gagne jamais lorsque les États-Unis et les firmes américaines sont en cause. Ça, c'est le bilan qui vient d'être dressé, notamment par Public Citizen aux États-Unis, par des organisations canadiennes. C'est que le mécanisme de règlement des différends de l'ALENA, qui sert de modèle pour celui qu'on va mettre en place si l'accord transatlantique est adopté, c'est un mécanisme qui est au service des firmes américaines et des États-Unis d'Amérique. Dans aucun cas, les firmes américaines ou le gouvernement américain ne sont perdants.
Les firmes américaines, dites-vous, et le gouvernement américain. On a tout de même le sentiment que le très grand vainqueur dans cette histoire, ce sont les firmes, les multinationales.
Oui, bien entendu, parce que quand une firme mexicaine ou canadienne met en cause le gouvernement des États-Unis, c'est parce qu'il protège une de ses multinationales, une de ses firmes. D'ailleurs, l'exemple dans le bilan de l'ALENA de ces 20 ans de ce partenariat d'Amérique du Nord, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que les États-Unis n'honorent pas leur signature. Les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable. Ils ont continué à protéger leurs géants industriels et leurs géants agricoles, en dépit des accords de libre-échange avec le Canada et avec le Mexique. Et que ça a eu des conséquences terribles, notamment pour le Mexique. Le Mexique, il y a 20 ans, était exportateur net de produits agricoles et notamment de maïs. Aujourd'hui, le Mexique est importateur net. Des centaines de milliers d'emplois ont disparu dans l'agriculture. On assiste à des phénomènes de désertification parce que les États-Unis ont continué à soutenir leurs géants agricoles financièrement et à les protéger. Et quand le Mexique a attaqué le gouvernement des États-Unis parce qu'il ne respectait pas les règles de l'ANENA, le Mexique perdait devant le mécanisme de règlement des différends.
Alors justement, si on reste sur l'agriculture, Raoul Margenard, l'Europe aussi protège son agriculture.
C'est vrai. C'est d'ailleurs le reproche que lui font beaucoup de pays du Sud. L'Europe aussi protège son agriculture. Et on se pose la question de savoir comment le dossier agricole va être traité dans cette négociation avec les États-Unis. Mais on a déjà la réponse. On pouvait se poser la question de la protection, parce que cette protection, elle a beaucoup de formes, mais ce que l'on sait déjà, et là les médias ont une énorme responsabilité quand ils racontent n'importe quoi, parce que le peu qu'on ait dit dans la plupart des médias sur ce projet de négociation, c'était pour dire que sur un point au moins, il n'y a pas de problème, l'abaissement des tarifs douaniers. Puisque un accord de libre-échange, c'est ça aussi. Or, c'est vrai que dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs, les droits de douane entre les États-Unis et l'Europe n'existent quasiment plus ou sont ridicules, sauf dans le secteur agricole. Et là, un agroéconomiste comme Jacques Berthelot a fait le travail et il a identifié produit agricole par produit agricole, donc tous les dérivés du lait, puis la viande, et puis bref, avec les droits de douane qui sont aujourd'hui appliqués à l'entrée du territoire européen, et il en déduit que si on les abaisse, c'est une catastrophe pour les agriculteurs européens. Or, c'est la volonté. Et les médias ont dit il n'y a pas de problème, et ils n'ont jamais cité l'énorme problème que ça représente pour l'agriculture. Parce que ça voudra dire que s'il n'y a plus de droits de douane, donc que la compétition est totale, d'abord arrivée massive de soja et de blé américain, génétiquement modifié, pour être compétitif en intensification du caractère industriel de l'agriculture européenne, c'est-à-dire qu'on va s'éloigner définitivement de cette espérance d'avoir des circuits courts entre producteurs et distributeurs, ça veut dire que on va avoir recours encore davantage à des incitants, à des produits, à des engrais et à des pesticides, ça veut dire une aggravation de la destruction de l'environnement, et ça veut dire aussi et surtout une perte énorme d'emplois, encore une fois, dans le secteur agricole. Donc, sur un point que la plupart des médias présentent comme anodin, c'est-à-dire l'abaissement des droits de douane, on a déjà des conséquences majeures, parce qu'il faut quand même se rappeler que l'agriculture, c'est d'abord notre alimentation, mais c'est aussi nos paysages, et finalement quelque part nos modes de vie, eh bien on a déjà un impact négatif majeur. Sans parler des autres impacts au travers des différents chapitres du mandat de négociation.
Mais si, justement, parlons-en.
On peut évoquer, par exemple, parce que ça a quand même été un peu dit, mais c'est presque présenté aujourd'hui comme de la rigolade, et il faut s'en choquer, s'en indigner, dans les accords de l'OMC, sur l'accès au marché. Il y a un accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Donc, la santé des animaux, la santé des plantes, et le texte du mandat de négociation du grand marché dit qu'on va partir de cet accord de l'OMC pour aller plus loin. Parce que c'est toujours ça, faire l'OMC et aller plus loin. Ce qui veut dire que dans ce domaine, où il faut se rappeler que les lobbies de l'agro-business américain considèrent que les normes qui existent en Europe ne sont pas fondées scientifiquement. Le principe de précaution aux États-Unis n'existe pas. Aux États-Unis, tout est acceptable tant qu'il n'y a pas de danger. Chez nous, c'est vraiment l'inverse. La perception du risque, l'évaluation du risque, et ce n'est pas seulement en matière de santé.
On pense tout de suite à l'environnement.
C'est l'environnement, oui, mais c'est aussi les réglementations techniques pour la construction d'une automobile. Aux États-Unis, il n'y a pas de risque tant que le risque n'est pas patent, avéré. Chez nous, on ne donne le feu vert que lorsque on a la preuve qu'il n'y a pas de danger. C'est vraiment la différence. Et donc, quand on parle de mesures sanitaires, phytosanitaires, donc on parle pour nous de sécurité alimentaire, de normes sanitaires, eh bien, le risque est très grand de voir contesté par des firmes privées, devant des groupes d'arbitrage privés, les normes que nous avons élaborées péniblement et de manière encore insuffisante en matière de santé, dès lors qu'il s'agit d'OGM, dès lors qu'il s'agit de bœuf aux hormones, de poulet chloré, de porc traité à la ractopamine, ce médicament qui empêche le développement des graisses. Bref, l'introduction de la chimie dans l'alimentation, de technologies qui mettent, jusqu'à preuve du contraire, qui présentent en tout cas des risques en matière de santé. Là, on va avoir un véritable risque que tout ce qu'on a essayé de construire péniblement, en dépit des lobbies qui agissent avec force pour faire passer le profit avant la santé, tout ça risque d'être balayé comme par un tsunami par ces dispositions prévues dans le cadre de la négociation du grand marché transatlantique.
Quelles sont les échéances, Raoul Marchena?
Alors, le feu vert a été donné le 14 juin 2013. La négociation a commencé à Washington le 8 juillet 2013. La négociation se déroule par des cycles de réunions qui se tiennent une fois à Bruxelles, une fois à Washington. On en a eu 3 jusqu'à présent. Et il doit y avoir une évaluation par les 2 négociateurs en chef, c'est-à-dire le commissaire européen Carole De Gucht, commissaire au commerce international, et le secrétaire d'État au commerce américain. Et en fait, sur ce qu'ils ont fait, sur ce que les groupes de travail ont fait jusqu'à présent, c'est-à-dire essentiellement définir un calendrier, définir dans le détail la table des matières, et puis l'espérance, enfin leur espérance, c'est d'aboutir en 2015, d'avoir un accord qui serait, et là c'est important de le savoir, c'est, comme c'est la Commission européenne qui négocie, quand États-Unis et Commission européenne considéreront qu'ils ont abouti à un accord, la Commission européenne va devoir revenir devant le Conseil des ministres. Là, il y a un premier moment de responsabilité pour les gouvernements. Ce qui ne veut pas dire que les gouvernements, entre-temps, ne soient pas au courant. Par des mécanismes sur lesquels il est un peu long de revenir, les gouvernements suivent au jour le jour les négociations. Et ils peuvent donner des impulsions. Ou dire aussi qu'ils refusent telle ou telle avancée. Les gouvernements ne sont pas complètement absents de la négociation. Mais le grand moment où ils doivent se prononcer, c'est quand ils diront à la Commission européenne, voilà, ce que vous avez négocié nous convient ou ne nous convient pas. Ou vous avez accepté des choses inacceptables ou nous sommes tout à fait d'accord. Donc il y aura ce moment-là. Ça se situera quelque part en 2015, quand la Commission reviendra devant le Conseil des ministres européens avec le résultat de la négociation. Et si les gouvernements disent c'est bien, alors la Commission peut signer.
Mais d'ici là, Raoul Marchena, les lobbies sont extrêmement présents. Il y a eu énormément de réunions entre la Commission et les différents lobbies.
Bien sûr, les lobbies sont présents à tous les instants, et donc ils ont été présents même avant l'accord du 14 juin, puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est la Commission elle-même qui a proposé le texte du mandat, et que pour ce faire, elle a reconnu qu'elle avait tenu près de 120 réunions avec des représentants du monde des affaires et de la finance. En 14 mois, la Commission européenne, de février 2012 à avril 2013, a tenu près de 120 réunions, rien qu'avec les lobbies du monde de la finance et des affaires. Et on a d'ailleurs estimé que 65% du mandat a été écrit directement par les lobbies. Mais d'ailleurs, la Commission ne s'en cache pas. Elle reconnaît qu'elle a tenu ces réunions et elle reconnaît qu'elle demande aux représentants du monde des affaires et de la finance des suggestions. Le texte, il est fait des suggestions faites par les premiers intéressés. Donc, ceux qui trouvent qu'il y a toujours trop de normes sociales, qu'il y a toujours trop de normes environnementales, qu'il y a toujours trop de réglementations techniques, ceux qui voudraient pouvoir faire du profit sans avoir à tenir compte de l'intérêt général. Ce sont ceux-là qui sont les auteurs de ce texte.
Cette émission est maintenant terminée et vous trouverez beaucoup de prolongements sur notre site. D'une part, il y a toute une série de conférences que Raoul Marcénard donne dans toute la France et dont vous trouverez une liste. Et puis également un lien vers toutes les actions qui sont engagées du côté d'attaque, par exemple, des engraineurs. Enfin, il y a toutes sortes de groupes déjà qui travaillent sur ces questions-là. Et donc, vous aurez toutes les informations sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez bien sûr aussi notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Et notre adresse, c'est Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Spegassi, préparation, documentation, Laurence Lenpin, Anne Gouzon, mixage, Claude Nior, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.